Il est 16h sur Europe 1. Le flash avec Maud Tambellini. Bonjour Maud.
Bonjour Sophie et bonjour à tous. Non au projet de LGV Sud-Ouest, un rassemblement en cours sous haute surveillance. Avec le soutien des soulèvements de la Terre, un gros millier d'opposants au projet de ligne à grande vitesse entre Toulouse et Paris via Bordeaux sont actuellement réunis en Gironde. Et malgré un début dans le calme, des incidents émaillent désormais la manifestation. C'est ce que vous avez pu constater sur place, Alexis Bourdon.
Oui, et c'est un groupe de gendarmes qui a été pris à partie. Je me trouve juste à côté du véhicule des forces de l'ordre qui s'est retrouvé embourbé dans le sable non loin d'une partie des opposants à la LGV. Et après plusieurs minutes dans le sable, une partie des manifestants, les plus radicaux, ont décidé de faire face aux gendarmes. Et le ton est monté d'un cran quand un gendarme a sorti une arme de poing pour tenter d'intimider les manifestants. Des pierres ont été lancées et des grenades lacrymogènes ont été envoyées en riposte. Finalement, les gendarmes ont été contraints de fuir et l'épave trône au milieu du sable. Avec les vitres brisées. Certains casseurs en ont profité pour immortaliser le moment en posant pour des photos avec le matériel pillé dans la voiture. Pour le moment, un hélicoptère survole la zone en attendant d'éventuelles actions des gendarmes.
Alexis Bourdon en direct pour Europe 1 aux alentours de Lerme et Musset, petite commune à 75 km au sud de Bordeaux où des opposants à la LGV ont établi un campement. Une enquête a été ouverte après des tirs entendus hier soir visant un hélicoptère qui survolait la zone. Nuit plutôt calme en Martinique malgré une vingtaine d'interpellations, indique la préfecture. Depuis septembre, l'île est en proie à des manifestations et à des émeutes contre la vie chère. Les prix des produits alimentaires sont 40% plus chers que dans l'Hexagone. Des négociations sont en cours pour réduire cet écart. Israël sous le feu des critiques après que des tirs ont atteint jeudi et vendredi la FINUL, la force des Nations Unies au Liban. On apprend qu'un nouveau casque bleu vient d'être blessé dans le sud du Liban, le cinquième en deux jours, touché par une balle à l'origine encore inconnue alors que des échanges de tirs se poursuivent entre Israël et le Hezbollah. L'armée israélienne avait appelé un peu plus tôt la population libanaise à ne pas regagner le sud du pays pour leur propre sécurité. Retour dans l'Hexagone après le passage de la tempête Kirk, seul l'Eure-et-Loire et le Loir-et-Cher restent en vigilance orange face au risque de crue. La Seine-et-Marne rétrogradée en vigilance jaune ce matin, mais la décrue sera lente et les pompiers toujours sur place. Elle est où la République exemplaire? Le coup de gueule de Valérie Pécresse. Dans un message posté sur X, la présidente de Région Île-de-France déplore la baisse des dotations aux régions, mais la hausse des budgets du Parlement et de l'Élysée. Le projet de budget 2025 du gouvernement Barnier tout simplement inacceptable pour le Rassemblement national. Le parti annonce présenter mercredi un contre-projet. Incertitude en tout cas quant à savoir si le projet du gouvernement contiendra une hausse de la fiscalité sur le gaz. Le ministre du budget Laurent Saint-Martin s'est dit ce midi pas favorable. Une idée pourtant avancée la veille par la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher.
Europe 1.
Europe 1, pratiquement 16h03. On retrouve les histoires d'amour extraordinaires présentées par Sophie Davant.
Europe 1.
16h-17h.
Les histoires d'amour extraordinaires.
Sophie Davant.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle histoire d'amour extraordinaire. Comme chaque week-end, les samedis et dimanches, de 16h à 17h, sur Europe 1. Comment Victor Hugo, le plus grand homme de lettres du 19e siècle, aime-t-il ? On connaît son amour pour sa fille, Léopoldine, à travers l'un des plus beaux poèmes de la littérature française, « Demain dès l'aube ». Mais que sait-on vraiment de sa façon d'aimer celle qui fut sa maîtresse, sa muse, sa complice, sa première lectrice et collaboratrice, Juliette Drouet ? Un amour pur ou déchirant, rude ou empli de douceur ? Entre les deux amants, il y a eu l'amour des corps à l'initiative de Juliette Drouet, l'amour des lettres aussi, initié quant à lui par l'écrivain. Le couple s'en est envoyé 22 000 en un demi-siècle de passion. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire d'amour totalement hors norme, l'une des plus romantiques love stories de la littérature française. 50 ans de passion entre Victor Hugo et Juliette Drouet. Et pour en parler, je serai avec Florence Nogrette, historienne et autrice du livre « Juliette Drouet, compagne du siècle », publié aux éditions Flammarion. Mais tout de suite, place au récit.
Europe 1,
16h-17h,
les histoires d'amour extraordinaires.
Sophie Davant.
En cette froide matinée du 2 janvier 1833, une jeune femme presse le pas sur les grands boulevards, encore parés de leurs habits de fête. Elle a peur d'arriver en retard et ne se doute pas qu'elle court vers son destin. Elle arrive tout essoufflée devant l'imposant théâtre de la Porte Saint-Martin et se dirige vers le foyer qui connaît déjà une agitation particulière. Une dizaine de comédiens se retrouvent dans cette jolie pièce décorée de boiseries, de tentures, rouges et or. Soudain, un homme à la carrure imposante vient d'entrer et aussitôt, le silence se fait. Les deux vedettes de la troupe, Mademoiselle Georges et Frédéric Lemaître, saluent avec respect Victor Hugo. À 30 ans, c'est déjà un auteur à succès puisqu'il vient de publier Notre-Dame de Paris. Il vient de réaliser le tour de force d'écrire en quelques jours Lucrèce Borgia, la pièce qu'il s'apprête à lire devant la troupe. Avec son grand front, ses cheveux ondulés, son regard perçant, il plaît aux femmes et il impressionne la jeune Juliette. Ni l'un ni l'autre ne se doute que cette journée va bouleverser leur vie. Le silence se fait quand Victor Hugo commence à lire son drame romantique en 4 actes. Il joue tous les rôles avec ferveur. Dès la dernière réplique, les applaudissements fusent. Le directeur du théâtre annonce la distribution des rôles. Juliette doit interpréter la princesse Negroni, une charmante jeune fille qui n'a qu'un inconvénient, prononcer seulement 9 répliques au dernier acte de la pièce. Sa déception est si grande qu'elle pense à refuser. Mais une fois sa colère retombée, elle se raisonne. Il n'y a pas de petit rôle dans une pièce de Victor Hugo. Et surtout, elle est déjà tombée sous le charme du célèbre auteur. Victor Hugo n'est pas resté insensible devant la grande beauté de Juliette. C'est donc avec anxiété qu'il arrive à la première répétition. Il craint qu'elle ne renonce à jouer ce trop petit rôle et veut lui parler pour la convaincre de rester. Vêtue d'une redingote noire, les cheveux longs, le regard perçant, il la cherche dans les coulisses et soudain, il la découvre apprenant son texte, portant son costume de scène. Quel soulagement! Et comme elle est ravissante dans sa robe fuchsia doublée d'or. Quand elle entre sur scène, il ne la quitte pas des yeux. Pendant toutes les répétitions, lui, le grand auteur, se montre timide devant cette comédienne débutante. Que se passe-t-il donc entre ces deux-là, se demandent tous ceux qui participent aux répétitions. Et le grand jour arrive. Ce 2 février, l'affluence est telle devant le théâtre que le directeur a dû faire appel aux forces de l'ordre pour régler la circulation. Juliette attend patiemment son tour pour entrer en scène. Lorsqu'elle apparaît enfin, avec ses longs cheveux bruns maintenus dans une coiffe de perles et de plumes, un frisson parcourt la salle. Elle brûle les planches et allume le feu dans le cœur de Victor Hugo. À peine le rideau tombé, c'est un triomphe. Le public, debout, applaudit à tout rompre. L'auteur est fêté. Lui est soulagé et heureux pour sa petite protégée. Juliette en est maintenant certaine. Ce qu'elle ressent pour le grand homme est réciproque. Elle explique la timidité de l'auteur par sa mésaventure conjugale, car ce n'est un secret pour personne. Adèle Hugo a trompé son mari avec le critique Sainte-Beuve, un des meilleurs amis de Victor. Juliette va devoir faire preuve de beaucoup de délicatesse pour lui faire oublier cette double trahison. Elle se décide à lui écrire pour l'inviter chez elle et lui demander conseil. Elle ne se doute pas, en ce 16 février, que cette lettre sera suivie de milliers d'autres. Juliette lui fait porter ces quelques lignes, un peu comme une bouteille à la mer. Pouvez-vous me consacrer un moment ce soir, après 10 heures ? J'ai besoin de vous parler. Elle n'ose pas croire que cet homme, auréolé de gloire, va répondre à l'appel au secours d'une petite comédienne inconnue. En fait, Victor Hugo espérait un signe de Juliette. Il n'hésite pas à prendre un fiacre pour la rejoindre, bravant la pluie et les embouteillages, car les boulevards sont envahis de masques en cette nuit de carnaval. Il monte jusqu'à la chambre où Juliette l'attend. Il ne sait pas si les battements de son cœur sont dus aux escaliers ou à l'émotion qu'il ressent à l'idée d'être enfin seul avec celle qu'il aime depuis le premier regard. À minuit, Juliette se donne à lui sans résistance. Il la couvre de baisers et ne se lasse pas d'admirer ce corps qui le trouble depuis le premier jour. C'est le début d'une passion qui va bouleverser leur vie à tout jamais. Ce 16 février va rester pour les deux amants une nuit inoubliable dont ils célébreront la date pendant un demi-siècle dans un livre anniversaire. Victor n'a pas de mots assez forts pour décrire cet instant. Le 26 février 1802, je suis né à la vie. Le 16 février 1833, je suis né à l'amour. Ma mère m'a fait et tu m'as créé. La première date, ce n'est que la vie. La seconde, c'est l'amour. Aimer, c'est plus que vivre. Sois béni, ô ma bien-aimée. Je baise ton corps, je baise ton âme. Tu es la beauté, tu es la lumière. Je t'adore. Si Victor n'a jamais oublié les frissons de cette première nuit, c'est sans doute parce que Juliette lui a fait découvrir l'amour charnel qu'Adèle n'a jamais pu lui apporter. À 27 ans, la petite orpheline née en Bretagne n'a dû son salut qu'à sa beauté. Née Julienne Gauvin, elle est recueillie par son oncle René Drouet, dont elle prendra le nom. À 10 ans, il la place dans un couvent où elle sera malheureuse pendant 5 ans. À sa sortie du couvent, elle n'a que son charme pour survivre. James Pradier, un sculpteur célèbre, lui propose de poser pour lui. À 36 ans, c'est un libertin revendiqué. Son regard sombre, ses jambes musclées ont tout pour séduire une jeune fille. Les séances de pose s'achèvent au fond d'un lit et Juliette va bientôt donner naissance à une fille, Claire. Elle n'a que 19 ans. Lorsqu'elle le quitte, elle multiplie les amants qui lui permettent de vivre confortablement. Grâce à ses multiples expériences, elle va révéler à Victor Hugo des plaisirs qu'il ne soupçonnait pas. Pour la première fois, Juliette est réellement amoureuse et surtout, elle n'en revient pas de se sentir aimée par un si grand homme. C'est sans doute pour cette raison qu'elle va accepter un pacte d'amour qu'aucune autre femme n'aurait pu supporter. Elle l'a ébloui par sa beauté, par les charmes de ses courbes. Victor Hugo veut désormais Juliette Drouet pour lui, lui tout seul. Mais sera-t-elle d'accord pour perdre sa liberté ? Je vous raconte la suite de l'histoire d'amour entre Victor Hugo et Juliette Drouet dans un instant sur Europe 1.
16h-17h,
les histoires d'amour extraordinaires sur Europe 1.
BMW.
Il faut vraiment une bonne raison pour changer de ligne de conduite. Le coup de cœur sur un nouveau design, la magie d'un écran panoramique incurvé, le frisson du plaisir de conduire. Nouvelle BMW Série 1 M Sport Design, votre nouvelle ligne de conduite dès 390 euros par mois, sans apport.
Offre valable jusqu'au 31 octobre 2024 pour une BMW M16 M Sport Design. LLD 39 mois 30 000 km, réservé aux particuliers si accord BMW Finance. Conditions sur bmw.fr.
Pensez à covoiturer.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Ah, le patron, ils sont à 1,29€.
Les oignons jaunes ?
Eh oui, en ce moment, leur prix va vous faire pleurer. Le filet d'oignons jaunes d'1,5 kg origine France est à 1,29€.
86 centimes le kilo d'oignons jaunes. Ils veulent notre peau.
Oh, et leurs clients sont aux petits oignons, patron.
Oh oui, ça pique.
Ah oui, et ça fait mal.
Grand jeu anniversaire Lidl Plus. Jusqu'au 10 novembre, 1500 euros à gagner chaque mois pendant un an. Calibre 50-70, origine France. Règlements et informations sur Lidl.fr.
Si je vous dis « c'est zéro », vous allez penser que c'est nul. Mais zéro, ça peut aussi être exceptionnel.
L'exceptionnel chez Nissan, c'est une offre de financement à taux zéro sur toute la gamme de crossover neuf. Alors n'attendez plus. Pour rouler en nouveau Nissan Juke, zéro seconde à perdre.
Nissan.
Pour 10 000 euros empruntés, TAEG fixe 0% sur 36 mois, apport minimum 40%, exemple avec 8 000 euros d'apport, 36 mensualités de 277,78 euros. Montant du 10 000 euros jusqu'au 31 octobre si accordiaque. Coût crédit auto supporté par Nissan, détail Nissan.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Lundi huître, mardi huître, mercredi huître, jeudi huître, vendredi huître, samedi huître et d'huître manche. Ah, c'est bon, je suis prêt.
Et vous, prêt pour la semaine de l'huître ? Du 7 au 13 octobre, rendez-vous dans votre magasin, au marché, chez votre poissonnier, au restaurant ou chez votre ostréiculteur. Une initiative du Comité National de la Conchyliculture, cofinancé par France Agrimaire.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. Alors ça y est, c'est la foire au vin.
Oui, c'est reparti.
Et j'ai vu que vous avez encore une sélection remarquable cette année. Le Corbière Larougeante, par exemple, une valeur sûre.
Ah, madame est une connaisseuse.
Oh, un peu. Et je m'y connais aussi côté budget.
Ça, c'est clair. En ce moment, pendant la foire au vin, il y a 50% de tickets Leclerc sur la deuxième bouteille de Corbière Larougeante 2023 AOP.
Leclerc. AOP, appellation d'origine protégée, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Et si en 2024, on reparlait voiture à vivre ? Parlons de Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid sans recharge. Jusqu'à 1000 km d'autonomie. Toit en verre panoramique opacifiant Solar Bay. Volume de coffre jusqu'à 624 litres. Système Open Air Link avec Google intégré et plus de 50 applications disponibles. Découvrez Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid. Deux mois de loyer offert pendant les portes ouvertes du 10 au 14 octobre.
Selon version, deuxième et troisième loyer offert. Offre à particulier du 10 au 14 octobre si accordiaque. Voir conditions sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Europe 1.
Les histoires d'amour extraordinaires.
Sophie Davant. Je vous raconte cet après-midi sur Europe 1 l'histoire d'amour entre Juliette Drouet et le célèbre auteur Victor Hugo. Une relation naissante qui va rapidement prendre une tournure étonnante. Les deux amants sont fous d'amour, mais aussi fous de jalousie l'un envers l'autre. Et cette jalousie va provoquer la première tempête dans leur liaison. Cela fait 6 mois que les amants s'aiment en cachette, et Juliette n'en peut plus des reproches injustes de Victor, qui est jaloux même de son passé. Une scène violente éclate en août, comme un orage en plein été. Juliette brûle toutes leurs lettres et s'enfuit avec sa petite fille chez sa sœur en Bretagne. Victor lui envoie alors des missives enflammées. Tu as brûlé mes lettres, ma Juliette, mais tu n'as pas détruit mon amour. Il est entier et vivant dans mon cœur, comme le premier jour. Ces lettres, quand tu les as détruites, je sais tout ce qu'il y avait de douleur, de générosité et d'amour dans ton âme. C'était tout mon cœur, c'était mes entrailles, c'était mon sang. Juliette, partie sur un coup de tête, ne supporte pas d'être loin de son amant et couche sa détresse sur le papier. Victor, je me meurs loin de toi. Est-ce que c'est vrai que tu me hais, que je suis odieuse, que tu me méprises ? Je ferai tout ce que tu voudras. Dis, veux-tu encore de moi ? Victor répond à son appel en venant la chercher en Bretagne. Face à l'immensité de l'océan, Victor lui propose un pacte secret qui sera le début d'une liaison unique dans l'histoire. L'auteur dicte ses conditions et elles sont à peine croyables. Victor Hugo exige d'abord qu'elle abandonne son protecteur, le richissime comte Anatole Demidoff. Juliette, quitte cet homme que tu ne peux pas aimer. Je paierai tes dettes, je vais t'acheter un appartement où tu pourras vivre avec Claire. Tu ne manqueras plus jamais de rien. Mais je t'interdis d'ouvrir cet appartement à des étrangers. Promets-moi de ne plus jamais sortir sans moi et de ne pas céder à la coquetterie. Tu n'as pas besoin de parure pour être belle et désirable. Il lui achète un petit appartement rue Sainte-Anastase, tout proche de la place des Vosges. Juliette et sa fille sont enfin à l'abri du besoin, mais à quel prix ? Alors qu'elle était l'une des femmes les plus séduisantes de Paris, elle renonce aux dentelles, aux bijoux. Son nouvel amant lui donne chaque mois une somme d'argent pour payer le nécessaire. Alors qu'elle est la maîtresse d'un des rois de Paris, sa vie ressemble à celle d'une femme d'ouvrier. Elle doit raccommoder ses robes et pour économiser le feu dans la cheminée, elle passe ses soirées enfouies sous des couvertures à relire les missives de son cher Toto. Elle passe ses journées à l'attendre en lui écrivant. J'ai eu la stupidité de me laisser mener comme un chien de basse-cour. De la soupe, une niche, une chaîne, voilà mon lot. Il y a cependant des chiens qu'on mène avec soi, mais moi, je n'ai même pas tant de bonheur. Ma chaîne est trop fortement rivée pour que vous ayez l'intention de la détacher. Elle est entrée en amour comme on entre en religion. Les sacrifices qu'il lui demande ne sont pour elle que des preuves d'un amour hors norme. Comme dans un drame romantique, Juliette est heureuse d'être malheureuse. Souffrir par toi n'est pas souffrir, comme le chantera un jour Julien Clerc. Mais pendant combien de temps Juliette va-t-elle accepter de rester cloîtrée ? Que fait-elle de ses journées, cette pauvre Juliette, séquestrée par son amant ? Elle a promis à Victor de lui écrire 2 lettres par jour et cette promesse la sauve de l'ennui. Dans ses missives, elle trouve le courage de se rebeller. « Je ne me donne pas à toi, tu me possèdes, voilà tout. Triste possession aujourd'hui, j'en conviens, mais que je revendique avec tout ce que j'ai d'honneur, de dignité, de force et de courage pour t'aimer dans toute ma liberté et toute mon indépendance. » Leur histoire d'amour est magnifiée par ces échanges épistolaires. Tes lettres, ma Juliette, c'est mon trésor, mon écrin, ma richesse. Notre vie est là, déposée jour après jour, pensée par pensée. Tout ce que tu as rêvé est là. Tout ce que tu as souffert est là. Ce sont autant de petits miroirs charmants dont chacun reflète un côté de ta belle âme. En 1838, Juliette n'a pas perdu espoir de reprendre son métier de comédienne. Victor la délaisse pour écrire l'un de ses chefs-d'œuvre, Ruy Blas. Il lui promet qu'elle jouera le rôle de la reine. Mais Adèle, l'épouse de Victor, convainc le directeur de ne pas engager cette comédienne inconnue et Victor ne proteste pas. Chose plus étonnante, Juliette ne lui en veut pas, c'est même elle qui le console. Ne sois pas déçu, mon Toto, qu'est-ce qu'un succès au théâtre à côté de la joie de te voir chaque jour ? Seule consolation dans cette succession de désillusions, Victor lui offre un appartement plus grand dans la même rue. Elle l'aménage comme un musée dédié à son grand homme, avec sur les murs des portraits et des dessins signés Victor. Ils courent ensemble les brocanteurs pour meubler leur nid d'amour. Dans la chambre, une tapisserie rouge et or ornée de pans brodés est le témoin de leurs ébats. C'est entre les cheminées et le lit que l'auteur peut travailler tranquille. Un petit bureau en acajou, des plumes d'oie bien taillées, des provisions de papier bleu. Juliette organise tout pour garder son Toto le plus longtemps possible auprès d'elle. Elle le soigne, lui cuisine de bons petits plats. Toutes ses journées sont dévouées au poète. Elle lui écrit inlassablement 2 lettres par jour, ce qui fait plus de 20 000 gribouillis, comme elle les appelle. Elle lui raconte ce qu'elle ressent dans un style direct. « Mon cher petit Toto, au lieu de gribouiller de l'amour cul par-dessus tête dans mon encrier, j'aimerais mieux me trifouiller pêle-mêle avec vous. » Passant du tutoiement au vouvoiement, de l'humour à la plus grande gravité, elle ajoute parfois de petits dessins humoristiques. Elle vit dans le culte du grand homme et va devenir sa copiste attitrée, ce qui lui permet d'être sa première lectrice. Juliette Drouet, désormais la maîtresse de Victor Hugo depuis 10 ans, ils s'écrivent de longues lettres et l'amour entre eux n'est pas toujours apaisé. Vont-ils surmonter les épreuves qui les attendent ? Restez bien avec nous sur Europe 1 pour connaître la suite de leur histoire. À tout de suite.
Bonjour, c'est Cyril Hanouna.
16h-18h, on marche sur la tête.
Écoutez Europe 1, c'est être libre.
À un moment donné, où va l'argent ?
Je trouve ça inacceptable.
Où va notre argent ?
Il faut remettre l'argent dans les poches des Français.
Ce déni perpétuel, moi je n'en peux plus.
Personne ne le sait, personne n'en parle.
On marche sur la tête.
Nous sommes colère, sachez-le, tout le monde est énervé.
Ce n'est qu'un début, comme dirait l'autre.
Exactement.
Et merci pour vos émissions qui nous permettent d'avoir de la liberté de penser.
Europe 1, la radio libre.
On marche sur la tête. Cyril Hanouna.
Alors, un lundi de 16h à 18h sur Europe 1 et en replay sur le site et l'appli Europe 1.
À tous ceux qui savent que faire un barbecue en octobre, c'est optimiste. Et à ceux qui, justement, sont très optimistes. Bon, ils flottent, mais on va le faire quand même, ce barbecue. C'est pas 3 gouttes qui vont nous arrêter, hein. Eh oh, on n'est pas en sucre, hein. Tiens, va me chercher le parapluie. Jusqu'à samedi, Intermarché propose la côte de bœuf à griller Origine France à seulement 14,39€ le kilo. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Viande bovine, côte 3 étoiles à griller. Modalité sur intermarché.com.
Renault. On dit que la foudre ne tombe jamais 2 fois au même endroit. Pourtant, 50 ans après son premier lancement, Renault 5 revient pour un second coup de foudre. 100% électrique, jusqu'à 410 km d'autonomie, Google intégré et assemblé à Douai.
Renault 5 E-Tech 100% électrique avec borne de recharge offerte et maintenant disponible à l'essai. Portes ouvertes du 10 au 14 octobre. Borne de 990€ hors taxe pour un forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 31 octobre. Voir conditions sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Bienvenue aux gourmands qui attendent toujours le dessert avec impatience et qui n'hésiteront pas à se resservir. En ce moment, chez Picard, profitez de moins 30% sur une sélection de produits avec la carte Picard et nous, comme notre assortiment de 12 macarons. Et pour la livraison à domicile et le click and collect, rendez-vous sur picard.fr ou sur l'appli Picard. Picard, pour le bon et le meilleur. Modalité sur picard.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. Dites, c'est fou le choix qu'il y a dans votre foire au vin. Alors, il est comment le crémant Aguila, par exemple ?
Ah, très frais et fruité. Nos sommeliers le conseillent avec du fromage.
Ah, je note. Et je vois que vous le servez aussi avec des tickets Leclerc.
C'est vrai. En ce moment, pendant la foire au vin, il y a 50% de tickets Leclerc sur la 2e bouteille de crémant de Limoux AOP Aguila, méthode traditionnelle.
Leclerc. AOP, appellation d'origine protégée, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Les loups-garous de Tiercelieu. On aime tous ce jeu, hein ? Eh bien, je crois qu'on a créé la meilleure partie de tous les temps. Nous avons réuni 13 joueurs aux capacités exceptionnelles. Un ancien espion de la DGSE, une mathématicienne, un mentaliste.
Non, je vais pas tout vous dire maintenant.
Et n'oubliez pas, dans ce village, la vérité est un mensonge comme les autres.
Loup-garou. La meilleure partie de tous les temps, en ce moment seulement sur Canal+. Épisode 1 et 2 offerts via MyCanal.
Europe 1.
Les histoires d'amour extraordinaires.
Sophie Davant. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire d'amour extraordinaire entre Juliette Drouet et Victor Hugo. Alors qu'ils sont amants depuis 10 ans, Victor Hugo va tomber amoureux d'une autre. En 1843, Juliette et Victor s'apprêtent à fêter le 10e anniversaire de leur première nuit d'amour. La veille de ce fameux 16 février, Victor marie Léopoldine, sa fille, tant aimée. Juliette n'assiste pas à la cérémonie, mais elle prie, seule. Le 9 septembre, Victor et Juliette ont pu s'échapper de Paris pour un voyage à deux. Ils entrent au Café de l'Europe à Rochefort-sur-Mer en attendant leur diligence. Victor commande une bière et parcourt les journaux. La suite, c'est Juliette qui le raconte. Toto se penche brusquement sur moi et me dit d'une voix étranglée en me montrant le journal qu'il tient à la main. « Voilà qui est horrible !» Je lève les yeux sur lui. Jamais, tant que je vivrai, je n'oublierai l'expression de désespoir sans nom de sa noble figure. Je venais de le voir souriant et heureux, et en moins d'une seconde, sans transition, je le retrouvais foudroyé. Ses pauvres lèvres étaient blanches, son beau visage regardait sans voir. Sa pauvre main était serrée contre son cœur, comme pour l'empêcher de sortir de sa poitrine. Je prends l'affreux journal et je lis. Ce que Juliette apprend, la foudroie elle aussi. Le 4 septembre, à Villequier, Léopoldine et son mari se sont noyés lors d'une promenade sur la Seine. Victor ne se remettra jamais de la mort de Léopoldine. Il est assailli par le remords. Ce drame aurait pu être évité s'il avait accepté de passer quelques jours avec sa fille au lieu de partir en voyage avec Juliette. Il rejoint sa famille et Juliette a peur de le perdre. « Où es-tu, mon pauvre adoré? Dans quel état est ta famille? Dans quel état es-tu toi-même, mon Dieu? Et qu'est-ce qui arrivera de notre désespoir à tous si Dieu ne nous prend pas en pitié? Si tu m'aimes, mon cher adoré, ma vie, mon âme, mon tout, il faut prendre sur toi de sortir, de marcher, de venir me voir. Je t'aimerai tant que tu y trouveras peut-être quelques consolations et quelques douceurs. » Quand Victor retrouve Juliette, il pleure dans ses bras, comme un enfant. Elle ne peut pas imaginer qu'elle va vivre la même épreuve 3 ans plus tard. Claire, sa fille adorée, est emportée par la tuberculose à 19 ans à peine. Elle est trop effondrée pour trouver la force d'assister aux obsèques. C'est l'écrivain qui suit le cortège funèbre aux côtés de James Pradier, le père de la jeune fille. Victimes tous les deux de la perte irréparable d'une enfant, ils sont encore plus soudés et ne se doutent pas que leur couple va bientôt être fragilisé. Victor Hugo essaie de s'étourdir dans le travail, mais il va aussi trouver un refuge inattendu. Cela fait 10 ans qu'il aime Juliette, mais cette passion s'émousse. Juliette le sent. Je ne suis bonne à rien, pas même à te rendre heureux. Depuis 2 ans et demi, c'est à peine si tu as l'air de savoir que je suis au monde pour t'aimer et être aimée de toi. A-t-elle deviné que Victor était tombé amoureux d'une jeune femme blonde, aux yeux clairs et au sourire ravageur? À 25 ans, Léonie Biard est l'épouse du peintre François-Auguste Biard, un homme très laid, de 40 ans. Léonie et Victor se retrouvent souvent rue Saint-Roch, dans la garçonnière de l'écrivain. Le petit matin se lève sur Paris en ce 5 juillet 1845. Ils dorment enlacés après nuit d'amour, lorsqu'ils sont réveillés par de violents coups de poing donnés sur la porte. Une voix hurle « Au nom du roi, ouvrez !» Léonie remonte ses draps pour cacher sa nudité et Victor va ouvrir. Le commissaire de police n'a plus qu'à constater le flagrant délit d'adultère mandaté par le mari de Léonie. Victor échappe à la prison grâce à son titre de pair de France, mais Léonie est immédiatement enfermée dans la prison Saint-Lazare. Les journaux s'empressent de raconter cette mésaventure croustillante arrivée à l'un des hommes les plus célèbres de France. Pour étouffer l'affaire, Victor Hugo annonce qu'il doit partir pour une mission en Espagne. En réalité, il se réfugie chez Juliette. La jeune femme ne lit pas la presse et Victor en profite. Quelques jours après cette scène digne d'un vaudeville, Victor emmène Juliette en Normandie. Comme à son habitude, elle va passer ses journées à l'attendre dans une chambre d'hôtel pendant qu'il retrouve sa famille. À son bureau, Victor écrit ces quelques lignes. Tu te tournes vers moi avec ton triste et ravissant sourire. Tu m'appelles, tu me demandes, tu fixes ta pensée sur nos longues heures de rêverie et de causerie, si vite envolées. Mais ce n'est pas à Juliette qu'elles sont adressées. C'est à Léonie qui vient de retrouver la liberté, son mari ayant retiré sa plainte. Une fois la lettre pour Léonie expédiée, Victor va s'incliner avec sa femme sur la tombe de leur fille, puis rejoint Juliette dans son petit hôtel. Combien de temps encore Victor Hugo va-t-il pouvoir mentir à son épouse et à ses deux maîtresses ? C'est le 28 juin 1851 que le ciel va tomber sur la tête de Juliette. La poste lui apporte un paquet de lettres nouées par un ruban et scellées aux armes de l'écrivain. Elle ose à peine ouvrir ses étranges courriers. Horrifiée, elle reconnaît l'écriture si familière. Elle se met à lire frénétiquement ces lignes enflammées qui s'adressent à une autre. Tu es un ange et je baise tes pieds et je baise tes larmes. Je pourrais, mon ange, passer une nuit entière avec toi. Elle hurle de douleur en découvrant ces phrases qui lui étaient jadis adressées. Mais le plus cruel, c'est le mot explicite signé de sa rivale. Léonie lui apprend qu'elle est aimée du poète depuis 7 ans, que leur liaison dure encore et qu'elle est même reçue dans la famille Hugo. Elle porte l'estocade finale en lui disant que Victor n'ose pas rompre avec elle, uniquement par pitié. Ces lignes retentissent comme une déflagration dans la vie de Juliette. Assommée par le chagrin, elle trouve la force de sortir de son petit appartement pour errer toute une journée dans Paris, allant même sur les bords de la Seine. Pense-t-elle alors à commettre l'irréparable ? À la nuit tombée, épuisée et brisée, elle rentre chez elle, espérant la visite de celui qu'elle aime et déteste tout à la fois. Lorsque Victor arrive, il découvre Juliette en larmes. Il essaie de trouver les mots pour ne pas la perdre. « Pardon, ma Juliette, de ne pas avoir pu résister au plaisir de la chair que m'apporte Léonie. Mais elle ne pourra jamais obtenir mon âme qui est toute à toi. C'est toi seule que j'aime, et si tu me le demandes, je la quitte sur le champ. » Éprouvée par cette journée, Juliette demande à Victor de la laisser réfléchir. Et c'est finalement un coup du destin qui va décider pour elle. Restez bien avec nous sur Europe 1, on continue à parler de l'histoire d'amour entre Victor Hugo et Juliette Drouet. À tout de suite. Et si vous voulez encore un peu de douceur, ne manquez pas dimanche l'invité de Didier Barbelivien dans « Dis-moi ce que tu chantes » sur Europe 1. Ce sera Marianne Chazelle pour la pièce « Parle-moi d'amour » actuellement au Théâtre de la Michaudière à Paris. Un entretien en musique dans lequel elle reviendra sur les 5 chansons qui ont marqué sa vie. C'est ce dimanche de 17h à 18h sur Europe 1.
Bonjour, c'est Dimitri Pavlenko. soir 9h, Europe 1 Matin.
Écoutez, Europe 1, c'est être libre. Libre de s'informer.
Le monde se souviendra longtemps de ces points lumineux dans le ciel d'Israël.
On craint qu'une attaque contre le territoire iranien venant d'Israël se traduise par un embrasement incontrôlable.
On a cette triste médaille d'or, non pas des Jeux Olympiques, mais de la pression fiscale.
Il faut un électrochoc à l'Élysée.
Si la solution était d'augmenter les impôts, la France serait depuis longtemps la première puissance mondiale.
Europe 1, la radio libre.
Europe 1 Matin, Dimitri Pavlenko.
Alors à lundi, 7h-9h sur Europe 1.
Aesio Mutuel présente.
Alors Anxios, tes angoisses?
Bah j'ai vu le philosophe pour la tête que tu m'as recommandé.
Et il t'a dit quoi?
Que le secret de la vie est caché dans un parfum d'un soleil noir et blanc.
Et?
Bah maintenant je me sens perdu, en plus d'être stressé.
Ah mais oui.
Attendre des siècles pour prévenir correctement les risques de santé, c'est du passé. Avec Prévaesio, tous les adhérents d'Aesio Mutuel peuvent préserver leur santé physique et mentale grâce à des ateliers de prévention animés par des experts. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Renseignements en agence ou sur aesio.fr.
Votre peau est sèche ou rugueuse? Découvrez l'émollient Urea Repair Plus à 10% durée. La solution hydratation du corps des laboratoires dermatologiques Eucerin. Grâce à sa formule unique avec une haute concentration en urée, il hydrate et apaise les sensations de tiraillement. Résultat, 92% d'hydratation en plus. Émollient Urea Repair Plus 10% durée, disponible en pharmacie et parapharmacie. Seulement par Eucerin. Mesure instrumentale, pourcentage d'amélioration après 2 semaines d'application régulière, 43 participants. Europe 1.
Les histoires d'amour extraordinaires.
Sophie Davant. Depuis qu'ils se sont rencontrés, Victor Hugo et Juliette Drouet ont connu des hauts et des bas. Ils vont encore connaître des douleurs, celles du deuil et de l'exil. Le matin du 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte, président de la Deuxième République, proclame la dissolution de l'Assemblée nationale et prépare une nouvelle constitution qui donnera naissance au Second Empire. Il est 8 heures quand Victor Hugo apprend la nouvelle de ce coup d'État. Avec les députés de gauche, il décide d'organiser un comité de résistance et se met en danger. Il a tout juste le temps de glisser un mot sous la porte de Juliette. « Il faut que je te parle, ma vie en dépend. » C'est le début d'un long exil qui les mènera de la Belgique aux îles Jersey, puis Guernesey. Juliette est prête à suivre son grand homme jusqu'au bout du monde. Leur situation va bientôt s'améliorer grâce au succès inespéré des Contemplations, parues le 23 avril 1856. Avec ses droits d'auteur, Victor peut acheter une maison bâtie par un corsaire anglais, Hauteville House, et louer une maison pour Juliette à 100 mètres de chez lui, dans laquelle il reconstitue la chambre rouge et or de l'appartement parisien de Juliette, où ils ont passé tant de nuits enflammées. En cette année 1856, Juliette et Victor retrouvent enfin une vie plus apaisée. Victor accepte même de venir dîner chez elle avec ses deux fils, ce qui rend Adèle, sa femme, furieuse. Heureux dans sa vie privée, Victor l'est aussi dans sa vie d'auteur. C'est à Guernesey qu'il écrit Les Misérables. Le roman est un triomphe. Victor s'inspire de Juliette pour le personnage de Fantine, mais aussi celui de Cosette. Elle lui raconte ses années passées au couvent, dans son enfance, pour nourrir son roman. Mais cette période de bonheur va bientôt prendre fin. Adèle Hugo multiplie les voyages entre Guernesey et le continent, et Victor remarque son visage amaigri. Le 25 août, Adèle est victime d'une attaque d'apoplexie. Le 27 août, à 6 heures du matin, Adèle rend son dernier soupir. Elle souhaite être enterrée en Normandie, auprès de leur chère Léopoldine. Ne pouvant rentrer en France, Victor Hugo accompagne le cortège funèbre jusqu'à la frontière franco-belge, en compagnie de ses deux fils. Juliette se demande si la disparition de son éternel rival va lui offrir une nouvelle vie. De retour à Guernesey, Victor veut épouser Juliette, mais pour la première fois de sa vie, elle ose lui dire non. J'ai tellement attendu ce moment, Victor, mais c'est trop tard. À notre âge, cette union serait ridicule. Nous serions la risée du tout Paris. Cette déception va être balayée par une nouvelle que Victor Hugo n'espérait plus. Le 2 septembre 1870, Napoléon III dépose les armes devant l'empereur de Prusse, Guillaume II. C'est la fin de l'Empire et Victor peut enfin rentrer en France après 19 ans d'exil. Dès que le bruit de son arrivée en train se répand dans Paris, une foule immense se presse, gare du Nord, pour l'accueillir. Il est inquiet pour Juliette, qui apparaît pour la première fois en public à ses côtés. Elle se demande si elle va enfin pouvoir le garder pour elle toute seule. Ils s'installent sous le même toit, dans un bel hôtel particulier, avenue Dello. Ils ont chacun leur étage, mais elle est enfin reconnue comme la maîtresse de maison. Malgré ses forces qui déclinent, elle organise tout. C'est elle qui reçoit le courrier de l'écrivain, surtout les lettres d'admiratrice, ce qu'elle a du mal à supporter. Tu ferais bien de te débarrasser peu à peu de toutes ces coureuses de goussets et de culottes qui rôdent autour de toi comme des chiennes. Ses soupçons sont justifiés car à 68 ans, Victor Hugo reste une force de la nature et accumule les aventures. Après un dîner copieux, il est atteint d'une légère congestion cérébrale due à ses excès de nourriture et de sexe. Les médecins lui recommandent un changement d'air. Ils partent se reposer à Guernesey. Juliette y découvre le carnet dans lequel Victor raconte toutes ses aventures sentimentales. Ces trahisons sont autant de coups de poignard dans le cœur déjà usé de Juliette, elle qui écrivait dans une de ses lettres de 1834. Mon Victor, n'oublie pas que je t'aime, qu'un seul de tes regards pour une autre femme que moi me ferait mourir. Comme à son habitude, Juliette pardonne et reste auprès de son amant, devenu une gloire nationale. Le 26 février 1882, pour ses 80 ans, l'avenue Dello devient avenue Victor Hugo. Il reste le seul homme célèbre à avoir vécu dans une avenue portant son nom. Plus de 100 000 personnes sont massées devant chez lui pour apercevoir le plus grand auteur de son siècle, entouré de ses petits-enfants Georges et Jeanne. Juliette a préféré rester en retrait, impressionnée par cette foule immense. Quand il se retourne, il la découvre fragile et grelottante. Rongée par un cancer de l'estomac, elle n'a plus le courage d'écrire sa lettre quotidienne à Victor. Victor feint de ne pas voir sa faiblesse extrême, déni ou indifférence, difficile à dire. Mais il ne peut ignorer en recevant les vœux de Juliette le 1er janvier 1883 que ce seront les derniers. Cher adoré, je ne sais pas où je serai l'année prochaine à pareille époque, mais je suis heureuse et fière de te signer mon certificat de vie pour celle-ci par ce seul mot. Je t'aime. Pour l'anniversaire de leur première nuit d'amour, le 16 février, Victor offre à Juliette une photo de lui avec ces quelques mots. 50 ans d'amour, c'est le plus beau mariage. Le 11 mai 1883, à 3 heures du matin, rongée par le cancer, elle refuse de faire appeler Victor à son chevet et s'éteint discrètement, comme elle a toujours vécu. Victor Hugo reste reclus dans sa chambre, seul, avec ses souvenirs. Terrassé par le chagrin, il ne peut pas accompagner sa Juju jusqu'à sa dernière demeure à Saint-Mandé, où elle sera enterrée aux côtés de sa fille. À partir de ce jour, Victor Hugo n'écrira plus une seule ligne. Il meurt, 2 ans plus tard, le 22 mai 1885. La France lui rend un hommage national. Comme Victor le souhaitait, il est parti rejoindre Juliette pour l'éternité.
Europe 1.
Les histoires d'amour extraordinaires.
Et pour en parler, je suis avec Florence Nogrette, historienne et autrice du livre « Juliette Drouet, compagne du siècle » paru aux éditions Flammarion. Merci d'être avec nous, chère Florence Nogrette, avec donc un sujet qui vous a passionné puisque vous lui avez consacré plusieurs années de votre vie, Juliette Drouet. Pourquoi d'ailleurs vous êtes-vous intéressée à cette femme en particulier ? Vous êtes historienne et donc chercheuse.
Je suis spécialiste de Victor Hugo au départ, hein, et avant de connaître Juliette Drouet, c'était l'œuvre de Victor Hugo que je connaissais. Quand j'ai découvert qu'elle lui avait écrit 22 000 lettres, ma curiosité a été attisée, et je me suis d'abord demandé ce qu'elle disait de l'œuvre de Hugo dans ses lettres, hein, puisqu'elle en était la copiste et donc la première lectrice et la première commentatrice. Et c'est à la recherche de ses commentaires sur l'œuvre de Hugo que je suis partie, mais ce que j'ai découvert, c'est tout autre chose, c'est sa vie quotidienne, sa pensée,
sa dévotion
amoureuse à Hugo, mais aussi sa vision du monde qu'elle exprime dans ses lettres. Et c'est pourquoi je m'y suis intéressée jusqu'à écrire une biographie.
Alors, vous allez nous raconter ce qu'elle disait justement de l'œuvre de Victor Hugo, ça nous intéresse aussi. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on a du mal à imaginer cette relation de l'ombre. C'est pas simple d'être la maîtresse de ce grand homme. Non seulement il a d'autres aventures, et puis il lui demande des sacrifices incroyables.
Oui, il lui a surtout demandé le sacrifice de sa carrière d'actrice. Donc ça nous paraît tout à fait impensable à nous aujourd'hui, qu'elle ait pu renoncer à cette carrière où elle était brillante. Elle jouait les jeunes premières à l'Odéon, à la Porte Saint-Martin. Elle était très en vue et une des plus jolies femmes de Paris. Et puis, elle a renoncé à sa carrière pour se consacrer à lui, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle lui était indispensable et qu'elle pouvait l'aider dans son œuvre.
À sa carrière et puis à son statut de femme coquette, ravissante, il lui a demandé de renoncer à tout ça.
Oui, parce que dans la mesure où maintenant c'était lui qui l'entretenait et qu'il avait une sorte de double foyer, son foyer conjugal et puis le foyer qu'il formait avec elle et avec sa petite fille Claire, qu'elle avait eue du sculpteur James Pradier. Il lui fallait faire des économies à lui pour entretenir ses deux familles. Et donc elle a dû renoncer à son train de vie très luxueux de courtisane qu'elle avait avant. Mais ça valait la peine, selon elle, puisqu'elle avait aussi beaucoup de satisfaction à être sa maîtresse.
Bon, on en parle plus en détail dans quelques instants. Merci d'être avec nous. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Sophie Davant.
Les histoires d'amour extraordinaires.
Lundi huître, mardi huître, mercredi huître, jeudi huître, vendredi huître, samedi huître et d'huître manche. Ah, c'est bon, je suis prêt.
Et vous, prêt pour la semaine de l'huître? Du 7 au 13 octobre, rendez-vous dans votre magasin, au marché, chez votre poissonnier, au restaurant ou chez votre ostréiculteur. Une initiative du Comité national de la conchyliculture cofinancée par France Agrimaire.
Bonjour, c'est Camille Lacour. Le cancer du sein touche une femme sur 8. Moi, c'est ma femme. À l'occasion d'Octobre Rose, aidez la recherche. Faites un don sur cancerducein.org.
Ceci est une campagne contre le cancer du sein de l'association Ruban Rose.
Bienvenue à vous qui aimez recevoir pour l'apéro et à vos amis qui ne manquent jamais une occasion de s'inviter. En ce moment chez Picard, profitez de moins 30% sur une sélection de produits avec la carte Picard et nous, comme nos 10 mini cheeseburgers. Et pour la livraison à domicile et le click and collect, rendez-vous sur picard.fr ou sur l'appli Picard. Picard, pour le bon et le meilleur. Modalité sur picard.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Europe 1.
Les histoires d'amour extraordinaires.
Chaque samedi et chaque dimanche de 16h à 17h, je vous raconte une histoire d'amour extraordinaire et je viens de vous raconter aujourd'hui l'histoire d'amour extraordinaire entre Victor Hugo et Juliette Drouet. Pour en parler, je suis avec l'historienne Florence Nogrette qui en a fait un livre qui s'est intéressé à Juliette Drouet, compagne du siècle, publié aux éditions Flammarion. 50 ans d'amour, 22 000 lettres, ça vous a intrigué. Vous avez d'abord cherché ce qu'elle disait à travers ses lettres de l'œuvre d'Hugo. Qu'en disait-elle justement de l'œuvre de Victor Hugo ?
Eh bien, comme elle en était la copiste, elle la suivait au fur et à mesure. Hein, et elle s'exprime de manière souvent naïve, hein, comme le lecteur lambda, qui réagit avec son cœur, avec ses émotions les plus vives. Et donc, elle en dit évidemment que c'est sublime. Et elle en perçoit bien souvent la finesse. Par exemple, le fait que les fins sont toujours tragiques et que Hugo est très subtil avec ses personnages, même les méchants, Javert dans Les Misérables ou les Thénardier dans Les Misérables, qui sont des méchants. Elle voit bien que Hugo a quand même une sorte de pitié pour eux. Et elle voit aussi que les bons personnages sont des personnages qui souvent ont une fin tragique. Donc elle perçoit que l'œuvre de Hugo n'est pas manichéenne, par exemple. Et puis il y a les poèmes qui lui sont destinés à elle, où elle n'est pas nommée, évidemment, puisqu'elle est la maîtresse. Hugo ne pourrait pas décemment dire son nom. Mais elle perçoit qu'elle en est l'inspiratrice et ça lui inspire des sentiments mêlés. D'un côté, elle est fière. De l'autre, elle voit sa propre image lui échapper en devenant un personnage poétique. Elle en est presque jalouse. Parfois, elle dit « je suis jalouse de moi-même quand tu fais de moi un personnage poétique ».
Est-ce que leur histoire d'amour est unique dans l'histoire de la littérature ?
Oui, elle est unique. Alors déjà, l'histoire d'amour elle-même est unique parce qu'il s'agit d'une maîtresse qui l'a gardée toute sa vie, qui l'a gardée les 50 ans de leur liaison, alors que beaucoup d'hommes avaient des maîtresses, et notamment des actrices comme maîtresses au XIXe siècle, mais ne les gardaient pas comme ça, comme compagnes toute leur vie, donc ça c'est unique. Ce qui est unique aussi, ce sont ces 22 000 lettres qu'elle lui a écrites et qui sont un journal épistolaire et qui constituent une sorte de vie de Victor Hugo. D'ailleurs, il les lui a fait écrire, hein, il lui demandait ce journal épistolaire, et c'est elle, d'une certaine manière, qui nous donne une vision de Victor Hugo intime, telle que personne d'autre qu'elle n'a pu le connaître. Hein.
Alors, si Victor Hugo l'a amené donc à écrire ses lettres, lui apporte la littérature, elle l'initie, elle, au plaisir du corps. On a l'impression qu'il découvre la sexualité avec elle.
Oui, sans doute. Il avait déjà eu 5 enfants avec sa femme, dont un mort en bas âge. Mais bien sûr, Juliette avait été à la fois courtisane et actrice. Souvent, les actrices étaient courtisanes en même temps pour pouvoir avoir un train de vie qui leur permette d'assurer leur jolie toilette au théâtre, hein, puisqu'à l'époque, ce n'était pas les théâtres qui payaient les toilettes des actrices, c'était les actrices qui se payaient leurs toilettes elles-mêmes. Donc ça leur demandait souvent ce métier parallèle de courtisane. Sarah Bernhardt l'a été aussi. Et oui, dans les premières lettres, elle lui promet les plaisirs du corps. Puis après, ça se calme un petit peu, et sur la fin de leur vie, il l'aime encore. C'est vraiment la femme qu'il a le plus aimée. Ils ont une sexualité qui dure jusqu'à après que Juliette a 50 ans. Je le vois parce que dans les lettres, quand elle a une bonne fortune avec lui, elle le note de manière détournée avec une périphrase, mais on comprend bien que c'est ça qui s'est passé. Et quand elle a encore 60 ans passé, lui-même écrit dans ses carnets, parce qu'il lui a passé un onguent sur le corps pour soigner une névralgie, elle a encore un corps superbe.
Alors, très vite, donc après leur rencontre, Victor propose à Juliette une sorte de pacte avec des exigences donc qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. On a presque l'impression qu'il la séquestre.
Ça dure quelques années entre ce pacte de 1839 et puis 6 ans plus tard, le moment où il commence une relation avec Léonie, cette autre femme mariée qu'il a beaucoup aimée aussi. Ça ne dure donc pas très longtemps, la période où il lui demande de rester chez elle.
Est-ce qu'après elle se rebelle quand elle sent qu'il y a une autre femme dans sa vie ?
D'abord c'est lui, parce qu'il a une autre femme dans sa vie qui devient moins jaloux et qui donc lui rend un petit peu sa liberté. Et à ce moment-là, elle a de nouveau le droit de sortir seule, d'ouvrir son courrier sans attendre qu'il soit là. Mais il y a cette période au début de leur petit ménage, comme on disait. Ce qu'on appelait petit ménage, c'était un deuxième foyer avec la maîtresse. Au début, il est très jaloux, il la surveille étroitement. Mais ce qui est amusant, c'est que même quand ils sont plus âgés, ils continuent à être jaloux, sans raison.
C'était très passionnel, leur relation.
Très passionnel. C'était vraiment une relation d'âme-sœur.
En quoi étaient-ils des âmes-sœurs ?
Ils avaient certains points communs. Ils avaient tous les deux une grande blessure dans l'enfance. Elle était orpheline. Elle a été orpheline à 1 an et demi. Elle n'a pas connu ses parents. Lui a eu des parents déchirés par le désamour et puis déchirés politiquement, parce qu'ils n'étaient pas du même bord au moment de la Révolution française. Son père était bonapartiste, sa mère était royaliste. Elle aussi, elle avait cette double déchirure politique dans ses ancêtres. Et puis, vous savez, ce sont des affinités électives qui ne s'expliquent pas. Hein. La rose est sans pourquoi, comme on dit.
Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Donc, je précise que pour tous ceux qui se sont passionnés pour cette histoire entre Victor Hugo et Juliette Drouet, vous avez écrit un livre formidable publié aux éditions Flammarion, Juliette Drouet, compagne du siècle. Au 21e siècle, elle aurait fait quoi d'ailleurs, Juliette Drouet, à votre avis?
Oh, elle aurait écrit, certainement. Ou bien elle aurait poursuivi sa carrière d'actrice.
Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve demain pour une nouvelle histoire d'amour extraordinaire. En attendant, je vous laisse avec Isabelle Morizet pour Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Merci à vous.